Bienvenue au National. Bonjour, mesdames et messieurs, Christiane Campagnat avec vous pour votre édition hebdomadaire du National où nous vous lisons des articles sur différents sujets tirés de journaux du Canada francophone d'un bout à l'autre, de l'Atlantique au Pacifique, en allant jusqu'au territoire du Nord-Ouest. Aujourd'hui, il sera notamment question de franglais et de chiac, il sera question d'importance de la presse écrite, du Congrès mondial acadien de 2019 déjà, et plus encore au cours de cette émission. Alors, on commence tout de suite avec un article tiré de lemétropolitain.com, bientôt une table de concertation à Toronto. Le jeudi 26 avril, une trentaine de représentants d'organismes de langue française se sont rassemblés à l'invitation du Centre francophone de Toronto. L'objectif de cette rencontre était de faire une consultation, question de tâter le pouls des différents secteurs de la francophonie du Grand Toronto, afin d'en connaître les idées pour une meilleure collaboration au sein de la communauté. Ce n'était pas la première fois que le Centre francophone se livrait à cet exercice. En décembre dernier, pareille rencontre avait eu lieu. Les participants en étaient arrivés à la formulation de 5 propositions. L'établissement de procédures pour rediriger les clients entre les organismes selon leurs besoins, la distribution équitable des ressources financières par un travail en amont avec les bailleurs de fonds, la mise en place d'une ou de plusieurs tables de concertation à Toronto, le recensement des organismes existants et une meilleure connaissance collective de leur mandat, et finalement, l'élaboration de stratégies pour travailler plus efficacement avec les organismes anglophones. Cette réunion initiale avait également permis aux organismes de mieux faire connaissance avec Florence Nenbuoro, qui 3 mois plus tôt était devenue la nouvelle directrice générale du Centre francophone. La rencontre d'avril avait à présent pour but de mieux définir les 5 propositions et de mettre sur la table des idées de gestes concrets à poser pour les mener à bien. En entrevue, la directrice a avancé qu'il y avait une volonté manifeste dans la communauté de tisser des liens. Ce que je sais, ce que je vois, c'est un besoin des francophones de se parler. Le Centre francophone, malgré son importance, souhaite cependant demeurer en retrait de ce processus afin qu'il demeure une démarche collective. On en est l'initiateur, mais on n'est pas l'organisme désigné pour coordonner, insiste-t-elle. En plénière, les participants ont passé en revue les principales idées qui avaient été exprimées. Parmi les points qui sont revenus d'une proposition à une autre, on retrouve la volonté d'assurer une présence plus cohérente et efficace des organismes sur le web, de mieux déterminer les champs d'intervention de chacun, de bien identifier les attentes du marché et du bassin de clients potentiels. Une autre idée a suscité plusieurs commentaires, celle de créer une table de concertation pour les organismes de Toronto ou du Grand Toronto. Aucune décision n'a été prise à cet égard, mais l'intérêt était palpable. Les participants ont exprimé leur désir de mieux se connaître les uns et les autres et de travailler de concert tout en promettant d'étudier plus en détail cette suggestion. Les idées et les pistes de réflexion exprimées au cours de la rencontre seront condensées dans un document préparé par le Centre francophone et envoyé à tous les participants. Ce document de travail ne sera qu'une première étape pour, à long terme, doter la communauté de nouveaux outils propres à assurer son avenir. Un texte tiré de l'Express.ca. Le franglais et le chiac sauvés par la science. C'est un texte de Jean-Pierre Dubé de Franco-Presse. Worry pas ton cœur, c'est cool de l'onner des mots d'anglais quand tu chattes en français. Presque tous les bilingues au monde mixeraient leur langue, souvent dans la honte. Mais une nouvelle étude risque de changer la discussion entre les parlants qui mélangent et les puristes qui imputent au mélange une érosion de la langue. Pour la sociolinguiste Shana Poplack de l'Université d'Ottawa, les différents dialectes n'ont rien d'inférieur, quoique propagent les idées reçues. Je suis sociolinguiste, ce qui veut dire que j'étudie la langue telle qu'elle se parle et non la langue qu'on nous dit de parler. Je m'amuse énormément. La langue parlée est extrêmement expressive. Et cette expressivité provient en partie du fait que les gens ont accès non pas à une, mais à deux langues. J'espère bien que la langue parlée sera sauvée par la science. Les trouvailles de la professeure sont fondées sur l'analyse quantitative systémique de millions de mots tirés de 43 000 phrases mélangées recueillies au fil de conversations avec 500 bilingues, surtout de la région d'Ottawa. Le résultat de ces 35 ans de recherche sur 13 paires de langues, surtout nos deux officielles, paraît dans un nouveau livre intitulé « Borrowing ». Shana Poplack est mal à l'aise avec les identifiants franglais et chiac. Ces étiquettes révèlent une vision nocive et dérogatoire de la langue parlée. Je ne m'en sers pas. Ce n'est rien d'autre que des mélanges de langues tels qu'on trouve dans toutes les communautés bilingues au monde. Et partout, les bilingues utilisent les mêmes procédés pour mélanger les langues. Il n'y a rien de désordonné. La titulaire d'une chaire de recherche du Canada a constaté une résistance aux emprunts chez les instances normatives. Cette réaction ne reposerait pas sur la science, mais sur l'insécurité. Il y a toujours ce côté moral dans les écoles académiques et offices de langue française. Ça part de l'idée qu'il y a eu des langues pures, mais rien n'est plus loin de la vérité. Un journaliste lui aurait relaté qu'il avait tenté de comparer le franglais du Canada au français de France. Il n'y a jamais eu de langue pure. Toutes les langues empruntent du vocabulaire. Et c'est là l'origine de cette impulsion moralisatrice. La chercheuse affirme que l'emprunt de mots d'une autre langue ne modifie pas le génie ni la structure grammaticale de la première langue. Cette pratique ne serait pas non plus un signe de paresse ou de méconnaissance d'une langue première. Alors, pourquoi mélange-t-on les mots? C'est une question de variabilité que l'on observe dans toutes les langues. Pourquoi est-ce qu'on a différentes façons de dire quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on a décidé ici d'utiliser le mot « courriel » alors qu'en France, on dit « mail » Pourquoi on dit « une job » et ils disent « un job » Il a fallu dire « hamburger » et « jazz » faute de français. Pourquoi utiliser « chum » quand on a beaucoup de synonymes de ce mot en français? La sociolinguiste ne sait pas précisément pourquoi. Il s'agirait simplement d'habitudes qui surgissent du fait d'être membre d'un groupe linguistique. Tous nos choix sont contrôlés par les normes, de la communauté à laquelle on appartient. Quand on est dans un milieu bilingue, ça devient normal de puiser dans les deux langues. C'est comme doubler les ressources disponibles pour s'exprimer. Shana Poplack espère que ses recherches sur 3,5 millions de mots serviront à booster la confiance dans la langue parlée. Les mélanges tels qu'inventés par les jeunes altèrent le lexique à chaque moment, mais ça ne peut pas altérer le génie de la langue.
Va me coucher tôt. Je te fais
C'était la formation Les Hey Babies, tirée d'un EP qui était sorti pas longtemps après leur participation au Francouverte « Je suis pas une femme à marier ». Et nous, on poursuit avec un texte tiré du Moniteur acadien, un texte de Génita Thibault qui s'appelle « L'importance de la presse écrite ». Dans les pays démocratiques, le rôle de la presse écrite a toujours été très important. Sa fonction principale est d'informer, mais aussi d'observer et de critiquer s'il y a lieu certaines stratégies envisagées par les divers paliers du gouvernement, fédéral, local et municipal, ainsi que dans le secteur privé. On résume ainsi l'importance et la liberté de la presse écrite en ces quelques mots. Il ne peut y avoir de démocratie sans une presse libre. Mais qui dit libre ne veut pas dire que les journaux doivent rapporter toutes les nouvelles si elles n'ont pas été vérifiées à l'avance. Les rumeurs non fondées n'ont pas leur place dans la presse écrite responsable. La liberté de penser, d'écrire, de publier et la liberté de la presse sont des éléments fondamentaux. Mais attention, s'il s'agit d'une annonce faite par les gouvernements, par exemple, soit par voie de communiqué de presse ou lors d'une conférence de presse, les journalistes ont la responsabilité d'en apprendre davantage sur les annonces divulguées. De plus, s'il s'agit d'une annonce faite par certains ministères, les agents de communication devraient être en mesure de répondre aux questions des journalistes qui cherchent plus de précision quant aux annonces faites. Les stations de télévision sont souvent mises au courant des actualités grâce à la presse écrite, c'est-à-dire les journaux ou les fils de presse. La presse écrite est un moyen nécessaire pour non seulement renseigner le public, mais également pour lui permettre de dénoncer certains projets considérés dangereux, par exemple, pour l'environnement. Un peuple bien renseigné est un peuple dans la bonne voie et vivant. Nous vivons dans un environnement technologique incroyable. Pour certaines personnes qui sont souvent accrochées à leur téléphone intelligent ou aux réseaux sociaux, c'est là qu'elles obtiennent les renseignements recherchés. Et pour les personnes plus âgées, la presse écrite demeure un moyen très important auquel elles peuvent se référer au besoin. Nous apprenions récemment la fin des hebdos, la Madawaska et l'Étoile du Nord-Ouest. Certes, c'est une triste nouvelle, bien que l'Acadie Nouvelle a la responsabilité de couvrir ces régions quotidiennement. Il demeure que la presse écrite doit continuer à exister en tant qu'un moyen indéniable pour l'émancipation d'un peuple, et ce, pour tous les âges. On poursuit avec le Moniteur acadien, des artistes renommés à la direction artistique des événements piliers du CMA 2019. Emmanuel Leblanc et Georges Béliveau assureront la direction artistique de deux journées piliers de la programmation du Congrès mondial acadien 2019, soit l'ouverture et la fermeture. Emmanuel Leblanc assurera la direction artistique de la journée d'ouverture du CMA 2019 à Abraham Village, à l'Île-du-Prince-Édouard, le 10 août 2019. Il s'agira du 25e anniversaire de la tenue des congrès mondiaux acadiens. Originaire de Mont-Carmel à l'Île-du-Prince-Édouard, Emmanuel fait carrière dans le domaine de la musique depuis plus de 15 ans. Membre fondatrice du groupe Vichten et des productions Takasun, elle est multi-instrumentiste accomplie sur la scène de la musique folk et a assuré la réalisation et la direction artistique de divers événements et projets culturels. Emmanuel Leblanc fera également la direction artistique de la journée de commémoration du 14 août 2019. En 1884, une page importante de l'histoire était écrite lors de l'adoption du drapeau et de l'hymne national de l'Acadie. Pendant le CMA 2019, les célébrations de ce moment marquant auront lieu à l'endroit même où il a eu lieu, à Miscouche, sur l'île du Prince-Édouard. Enfin, Emmanuel aura également le rôle de soutien artistique aux diverses communautés de l'île qui planifient des activités pendant le CMA. Pour sa part, Georges Béliveau assurera la direction artistique de la journée de clôture qui aura lieu à Chédiac le 24 août 2019. Originaire de Près-d'en-Haut, Georges Béliveau est issu d'une famille musicale et baigne dans le monde de la chanson depuis longtemps. Ayant touché au style plus traditionnel acadien avec le groupe Bois-Joli, dont il assurait d'ailleurs la direction artistique et musicale, il se tourne plutôt vers le country comme artiste solo, carrière qu'il entame en 2006 avec l'album « L'amour viendra nous sauver » et d'autres albums ont suivi. Récipiendaire de nombreux prix et distinctions, il a également assuré la direction artistique de la série de spectacles Les Vents d'Ordi du pays au pays de la Sagouine en 2014, qui mettait en vedette plus d'une trentaine d'artistes. La sixième édition du Congrès mondial acadien aura lieu du 10 au 24 août 2019 à l'Île-du-Prince-Édouard et au sud-est du Nouveau-Brunswick. Le Congrès mondial acadien a pour mission de réunir les Acadiens et tous ceux et celles passionnés par la culture acadienne. Pour plus de renseignements sur la programmation et sur l'événement, rendez-vous au www.cma2019.ca.
Je pars pour un voyage, c'est pour l'étoile du Nord. Je connais mon équipage, il faut que j'arrive au port. Il faut que j'arrive au port. Quand tu seras sur ces îles éloignées, tu rencontreras des Italiennes qui sauront te charmer, qui sauront te charmer. Il faut hisser les voiles, tromper ce triste sort. Avant de partir, il faut que je te dise encore, il faut que je te dise encore. Sois fidèle et sage, conserve-moi ton cœur. Au retour du voyage, tu feras mon bonheur, tu feras mon bonheur. J'en serai la délaissée. Que l'amour est trompeuse quand on est éloigné. Dabadilodi de l'orilam, dabadilodi de l'orilodi de l'orilam, dabadilodi de l'orilam. Je prierai Dieu.
tiré de l'album Terre Rouge, c'était la formation Vichten d'Emmanuel Leblanc. C'est un trio, en fait, avec sa sœur Pastel Leblanc ainsi que Pascal Mius. On poursuit avec les Jeux de l'Acadie 50+, lancent leur programmation, un texte tiré de la voix acadienne. Les Jeux de l'Acadie 50+, ont lancé leur programmation lors d'une conférence de presse à Abraham Village le jeudi 19 avril dernier. La 6e édition des Jeux se déroulera à l'Île-du-Prince-Édouard pour la première fois de son histoire, du 13 au 16 septembre 2018. En effet, ce sera la première fois que les Jeux auront lieu en dehors du Nouveau-Brunswick. La programmation annoncée présente 5 volets, sportifs, récréatifs, culturels, mieux-être et intergénérationnels. Il y aura en plus plein d'autres activités, incluant des ateliers et des conférences qui seront offerts aux participants pendant cette fin de semaine du mois de septembre. On est fiers de vous présenter notre programmation et de vous introduire à notre site web, lance la présidente du comité organisateur des Jeux, Maria Bernard. En effet, les gens peuvent s'inscrire à partir du site web à jeuxacadie50plus.com, souligne la présidente. Il y a longtemps qu'on vous attend dans la région évangéline, conclut-elle. On retrouve ce slogan sur la promotion des Jeux. On a distribué un pamphlet des Jeux de l'Acadie 50+, qui identifie chacun des volets dans des couleurs différentes et qui encourage les participants à s'inscrire avant le 1er août 2018. Les gens qui s'inscrivent avant cette date courent la chance de gagner un laissez-passer pour le pont de la Confédération. La date limite officielle d'inscription est le 22 août. Sur le site, on peut payer par carte de crédit ou PayPal. On a annoncé que le lieu central des Jeux sera le village musical acadien à Abraham Village. La majorité des activités se dérouleront à divers endroits dans la région évangéline, tandis que les activités sportives du golfe et des quilles auront lieu à Summerside. On est conscient du travail énorme entamé par le comité organisateur dans la planification pour tenir les Jeux de l'Acadie 50+, à l'Île-du-Prince-Édouard, indique Jean-Guy Frenette, président du comité de direction des Jeux de l'Acadie 50+, qui est venu du Nouveau-Brunswick pour assister à la conférence de presse, accompagné de James Thériault, directeur général de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick. Les maires des deux municipalités hôtesses, Abraham Village et Wellington, Roger Galland et Alcide Bernard, ont aussi pris la parole afin d'assurer leur appui en tant que village hôte et ont souligné le fait qu'ils ont hâte d'accueillir les participants dans la région. Ils viendront du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec, région Gaspésie et Île-de-la-Madeleine. En plus des insulaires qui y participeront aussi. Les Jeux de l'Acadie 50+, sont une excellente occasion de tisser des liens d'amitié avec des amis et cousins, cousines acadiennes et francophones, et de promouvoir une vie active chez les 50 ans et plus, ajoute Maria Bernard. On attend environ 300 participants. On prévoit que les Jeux généreront des retombées économiques d'environ 100 000 $ à la province et surtout dans les régions d'Évangeline et de Summerside. On continue toujours à recruter des bénévoles qui, eux aussi, peuvent s'inscrire dans la section du site web désignée à cette fin. Lors de la rencontre de presse, on a signalé que les gens qui désirent offrir quelques heures de bénévolat durant cette fin de semaine peuvent contacter un membre du comité organisateur ou communiquer avec le conseil scolaire communautaire évangéline au 902-854-2166. On se fera un plaisir de prendre vos coordonnées, de vous assigner des plages horaires et de définir les endroits où on a besoin de bénévoles.
Montréal a froid et Noël est gris. Les gens sont transis, j'en appelle à toi. Quand le ciel ne répond plus, j'ai perdu la foi. Compte-moi des menteries. Biscuits chinois, je t'ai choisi en croisant les doigts et je te crois moi. Beau demain, que tout ira bien.
C'était Philippe B. avec Biscuit chinois. On poursuit avec un texte de l'Express.ca, Viola Desmond, consacré sur le billet de 10 $. La Banque du Canada dévoilait récemment son nouveau billet de 10 $ affichant le portrait de Viola Desmond, réhabilitée officiellement à titre posthume en 2010, après avoir été incarcérée et mise à l'amende, il y a 6 décennies, pour avoir refusé de quitter une section réservée aux Blancs dans un cinéma de la Nouvelle-Écosse. Viola Desmond était une femme d'affaires prospère et son procès constitue l'une des premières contestations judiciaires connues soulevées par une femme noire au Canada pour cause de ségrégation raciale. Le 8 novembre 1846, après avoir refusé de monter au balcon du cinéma de New Glasgow comme l'exigeait l'établissement, Madame Desmond, alors âgée de 32 ans, avait été accusée d'avoir fraudé le gouvernement pour ne pas avoir payé la taxe qui représentait la différence de prix entre le parterre et le balcon. Et c'est tout pour cette première partie de l'émission Le National. On vous rejoint tout de suite après pour plus de nouvelles du Canada francophone. À tout à l'heure.
Coton.
C'était Dany Placard avec Sleeping Bag et nous poursuivons cette émission du National avec un texte de l'eauvive.ca, Savoir accueillir l'autre en français. Si la construction identitaire est parfois fort complexe, comme le soulignent certains chercheurs, parce qu'elle renvoie à la fois à ses propres valeurs et à celles de la société d'accueil, en revanche, elle crée d'heureux mélanges. Sandrine Haillon, professeure agrégée de linguistique française au département d'études françaises de langue et littérature du Collège universitaire de Saint-Boniface à Winnipeg, qui s'est intéressée aux variations du français dans l'Ouest canadien, parle même de variétés prestigieuses par rapport aux différentes sources où s'abreuve le français au Manitoba. Le président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, le FCFA du Canada, Jean Johnson, dirait lui que le français apporté par les nouveaux franco-canadiens est un véritable carburant pour les communautés francophones en milieu minoritaire. Depuis 30 ans, la baisse du français est constante selon Statistique Canada. L'organisme prévoit qu'en 2036, les francophones devraient passer de 23 à 21 % pour l'ensemble du Canada. Pour la même période, près de 14 millions de personnes devraient avoir ni le français ni l'anglais comme langue maternelle. Mais au-delà des chiffres, il y a aussi des gens qui ont choisi les communautés francophones pour s'épanouir. Qu'est-ce qui fera qu'un immigrant francophone aura le goût de s'identifier à une minorité linguistique plutôt qu'à celle qui domine? L'accueil, répond sans embâge Emmanuel Naïmana, gestionnaire de projet au sein du réseau immigration francophone, le RIF, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Installé depuis une dizaine d'années au sein de la communauté acadienne néo-écossaise, il voulait un endroit pour sa famille où la conciliation travail-famille serait plus facile qu'au Québec. C'est ce qui l'a incité à déménager. En prime, son diplôme d'enseignement de français du Burundi ayant été rapidement reconnu, il a pu travailler dès le départ dans son domaine, ce qui n'avait pas été le cas au Québec. La communauté acadienne a fait le reste. Emmanuelle Naïmana est convaincue que l'immigration francophone est un atout. Elle participe au développement social et économique de sa communauté d'accueil. Selon lui, plus l'accompagnement sera excellent, plus l'immigrant participera à cette vitalité du français. De plus, il est convaincu que si les parents venus d'ailleurs envoient leurs enfants dans des écoles francophones, cela permettra que ceux-ci deviennent bilingues, ce qui leur sera un atout. Au contraire, si les parents choisissent l'école anglaise, il y a risque d'assimilation. Interrogé à la veille de la 12e journée de réflexion sur l'immigration francophone tenue à Calgary le 21 mars dernier, Jean Johnson faisait part de l'importance accordée par son organisme à la présence des nouveaux arrivants au sein des différentes communautés francophones au Canada. 26 % des francophones de la Colombie-Britannique sont issus de l'immigration, c'est 24 % en Alberta. C'est clair que ça prend une ouverture de notre part. Cette présence des nouveaux francophones, issus notamment de divers pays africains, se reflète d'ailleurs dans la composition du personnel des différents organismes liés à la FCFA. Pour Jean Johnson, il est normal que ceux-ci soient à l'image de leur communauté. De plus, ces organismes ont un rôle d'accompagnateur pour diriger au bon endroit les nouveaux venus, notamment en matière de logement, d'école et de travail. Toujours dans la liberté.ca, les finances d'Envol 91 FM en question. Envol 91 FM a tenu le 4 avril 2018 son Assemblée générale annuelle. Si la radio communautaire du Manitoba est en déficit financier sur l'année 2017, plusieurs membres ont fait remarquer des dépenses spéciales de plus de 25 000 $ que le conseil d'administration n'a pas expliquées. C'est un texte de Valentin QF. Une cinquantaine de personnes étaient présentes au Centre culturel franco-manitobain pour assister au bilan de la 25e année de la radio Envol, dont le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, Nicolas Audette a présidé l'Assemblée. Le président sortant du CA, Jonas Desrosiers, et le directeur, Yaya Doumbia, ont tous deux salué les efforts des bénévoles et les réussites de l'année passée. Ils ont aussi tous deux évoqué le fait qu'il était de plus en plus difficile pour la radio de générer des revenus de publicité. Jonas Desrosiers a fait part de ses attentes vis-à-vis du nouveau budget fédéral qui annonçait une aide aux radios communautaires de langue officielle en situation minoritaire. Pour Yaya Doumbia, il est nécessaire pour l'organisme de diversifier ses financements. Il assure que l'Envol doit établir des partenariats avec les organismes de la province pour acheter des publicités à la station. L'Assemblée est demeurée perplexe face au dévoilement des états financiers de l'Assemblée 2017 par le trésorier Yves Labrèche. En effet, la radio communautaire accuse un déficit de 47 913 $ pour la période septembre 2016 août 2017 contre 6 154 $ l'année précédente. Plus de la moitié de cette somme provient de dépenses spéciales qui s'élèvent à 26 409 $. On ne peut pas en discuter, a déclaré Jonas Desrosiers face aux questions de l'Assemblée. Il y a actuellement une clause de confidentialité sur l'objet de ces dépenses. Yaya Doumbia a ajouté qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et que la santé financière de l'organisme n'était pas en péril. « Je vois un déficit, ça fait peur », a commenté Alain Chapaz. Lucienne Châteauneuf a de son côté demandé des clarifications. Des questions ont également été soulevées quant au choix de la firme BDO comme vérificateur des finances pour l'année 2017-2018. Ils produisent les états financiers depuis 10 ans et leurs honoraires seraient élevés, ont fait remarquer plusieurs personnes. Ça facilite la continuité, a justifié Yves Labrèche face aux questions des membres de l'Assemblée. Une proposition a été votée afin de chercher à l'avenir d'autres options. L'Assemblée a également élu son nouveau conseil d'administration. À l'origine, 6 des 9 membres du conseil souhaitaient se présenter à nouveau, dont Yves Labrèche, présent au CA depuis 10 ans. Face à de nouvelles questions des membres de l'Assemblée, la vice-présidente de la station, Françoise Thérien-Vrignon, a précisé après vérification qu'il n'était pas possible pour une personne d'être élue au-delà de 6 mandats. Contacté par La Liberté, le président sortant Jonas Desrosiers a déclaré que la clause de confidentialité autour des dépenses spéciales ne sera pas levée. La nouvelle présidente, Françoise Thérien-Vrignon, n'était pas disponible au moment de la parution de cet article.
Comment chanter la lumière? Quand son ombre sous les paupières, tu voyais tomber les paillettes partout sur vos corps. Les feux de Bengale se mettaient à briller dans le noir. Tu ne changerais rien. Non, tu ne changerais rien. On ne sait jamais où mènent ces chemins. Ton cœur est une roue qui te réveille la nuit.
C'était Willows, le nouveau nom d'artiste de Geneviève Toupin, qui nous chantait Les Grands Chemins. Et nous, on poursuit avec un texte de l'auroreboréale.ca, des bibliothèques aux services plus adaptés. Les Yukonais ayant une incapacité à lire des imprimés, difficultés d'apprentissage, incapacité physique ou déficience visuelle, pourront maintenant profiter d'un service adapté dans les bibliothèques publiques du territoire. En partenariat avec le Centre d'accès équitable aux bibliothèques, le CAEB, les bibliothèques publiques du Yukon offriront désormais une vaste gamme de documents à lire dans divers formats adaptés. La collection, qui compte plus de 500 000 documents, est composée de livres, de journaux, de magazines et de films en anglais ou en français, et de plus en plus souvent dans d'autres langues, pour tous les âges et tous les goûts. Les bibliothèques publiques du Yukon offrent également des services adaptés en collaboration avec le Réseau national de services de bibliothèques équitables. Des livres audio, des livres en braille, des DVD et des DVD en vidéodescription, des livres numériques, des livres format papier, des magazines et des journaux à gros caractères font également partie des produits offerts dans le cadre des services adaptés des bibliothèques publiques du Yukon. Dans l'Aquilon, l'hebdomadaire francophone du Grand Nord canadien, nous apprenons que le plus gros projet universitaire de recherche sur l'eau au monde a une assise à Yellowknife, un texte de Denis Laure. Doté d'un budget d'environ 150 millions, Global Water Futures est le plus gros projet universitaire de recherche sur l'eau au monde. À l'invitation d'Ecology North dans le cadre de la Semaine de la Terre, deux hydrologues de l'antenne de ce projet à Yellowknife sont venus au Centre Prince de Galles faire connaître leurs études qui doivent se poursuivre jusqu'en 2023. Global Water Futures vise notamment à diagnostiquer et anticiper les changements hydrologiques dans un contexte de réchauffement climatique, à développer des outils pour prévenir les catastrophes. Il s'agit d'un consortium tentaculaire avec 140 partenaires à l'échelle internationale. 18 universités canadiennes participent à ce projet, mais à la base, il a été mis sur pied par l'Université de Saskatchewan en partenariat avec les universités Wilfrid Laurier, Waterloo et McMaster. Northern Water Futures constitue une branche de ce vaste projet de recherche, plus spécifiquement dirigé par l'Université Wilfrid Laurier. Les changements climatiques sont beaucoup plus rapides dans le Nord que n'importe où dans le monde, explique l'hydrologue Anna Coles. Ils y sont 4 fois plus rapides que la moyenne planétaire. Les conséquences de ce réchauffement vont donc potentiellement arriver ici en premier. Dans son allocution, Craig Scott, le directeur général d'Ecology North, appelle ça le canari dans la mine de charbon, celui qui avertit tout le monde de se réveiller. L'Université Laurier a un partenariat de recherche avec le gouvernement des territoires du Nord-Ouest depuis 2010, partenariat valide jusqu'en 2020, qui sera bientôt renouvelé pour une autre décennie. Depuis septembre dernier, Laurier a son antenne permanente à Yellowknife, qui facilite grandement les recherches au territoire du Nord-Ouest et les rencontres avec les collaborateurs gouvernementaux. Anna Cause est l'une des quatre scientifiques qui travaillent à temps plein avec, entre autres, le gestionnaire de bureau et hydrométéorologue Ryan Cunnan. L'Université Laurier a plusieurs stations de recherche à travers les territoires, explique ce dernier, dont ce que j'appelle des laboratoires vivants, où nous avons des infrastructures. À Scotty Creek, près de Fort Simpson, dans le pergélisol discontinu, nous étudions la transformation du paysage et la distribution de l'eau en relation avec la fonte du pergélisol. Scruté depuis 20 ans, le paysage de cet endroit a fait remarquer Ryan Cunnan s'est grandement transformé, évoluant d'un plateau déforesté à un milieu humide sans arbres. Des tourbières se sont formées, se connectant les unes avec les autres, accumulant au passage les précipitations pour ensuite se jeter dans le ruisseau Scotty. Au fil des ans, le débit de cet affluent de la rivière Liard a augmenté. Trail Valley Creek, 50 km au nord d'Inuvik, et Baker's Creek sont deux autres de ces laboratoires vivants. Dans ce dernier, note Anna Cause, près de la Mid Giant, la couche de pergélisol dégèle de plus en plus profondément, un phénomène qui affecte la végétation. Nombre de recherches sont faites pour documenter l'accès des arbres à ce supplément d'eau. Retrouvera-t-on un jour au territoire de grands arbres comme dans le sud du Canada? Anna Cause préfère ne pas se prononcer. Potentiellement, spécule-t-elle, on pourrait assister à un changement de type de forêt, des conifères aux feuillus. Son collègue fait observer que la fonte du pergélisol peut avoir des effets différents d'un endroit à l'autre. À grande échelle, les variables dans un bassin versant sont si nombreuses qu'il devient extrêmement difficile de l'analyser. Il faut donc travailler à plus petite échelle, d'où la pertinence de se concentrer dans un secteur comme Scotty Creek, qui peut être indicatif d'une région plus grande. Nous devons comprendre comment chacune fonctionne, dit Ryan Cannon, et comment on peut alors les combiner dans un modèle et quantifier les changements.
Ça va comme ça vient des fois, mais y a du beau temps qui s'en vient, je vois. J'ai le soleil dans les yeux maintenant, c'est le soleil qui gagne. Elle se dandine devant les vitrines sans se soucier de ses souliers. Elle me dit que c'est pas facile, c'est pas facile. Elle se dandine devant les vitrines sans se soucier de ses souliers. Elle me dit que c'est pas facile, c'est pas facile.
C'est le musicien fransaskois Étienne Fletcher avec la pièce « Soleil ». Et nous nous poursuivons avec l'hebdomadaire francophone du Grand Nord canadien. Linda Bussé devient la directrice générale de la Fédération franco-ténoise, un texte de Denis Laure. Linda Bussé, qui entrera en fonction le 6 mai, qualifie sa nomination de coup de cœur et de cadeau. Le poste, avoue-t-elle, m'intéressait depuis longtemps. Il faut prendre ce qui s'est fait à la FFFT, dit Mme Bussé, et lui donner un nouveau départ, devenir un élément rassembleur pour toutes les associations francophones. Politicienne et fille de politiciens, Linda Bussé est arrivée au territoire du Nord-Ouest en 1992, selon le site Internet de la ville de Yellowknife. Elle est arrivée à Iqaluit, plus précisément, avant que le Nunavut n'obtienne son autonomie. Formée en prévention de la toxicomanie, Mme Bussé a occupé différents postes au gouvernement, entre autres aux ressources humaines et au ministère de la Santé et des Services sociaux. Au fil des ans, elle a multiplié les fonctions dans les organismes. Directrice générale de Canadian Parents for French, membre de l'Association des parents francophones de Yellowknife, du conseil d'administration, du CDTNO, etc. Elle a remporté le prix Jeanne Dubé, remis pour l'engagement envers la francophonie et la communauté. Linda Bussé est actuellement membre du conseil d'administration du Collège nordique, fonction qu'elle abandonnera pour des raisons d'éthique. Elle quittera aussi progressivement son emploi à temps plein à la direction de la Fondation de l'hôpital territorial Stanton. Elle mènera par contre à son terme, fin octobre 2018 donc, son mandat de conseillère municipale. Élue en 2012, réélue en 2015, elle dit apporter cette expérience politique à la FFT, sa maturité et une bonne connaissance du gouvernement ténois. Le Franco d'Alberta vous dit bilingue, préparez-vous, un texte de Fouad Secker. L'Association canadienne-française de l'Alberta, ACFA, régionale de Calgary, entame le troisième volet de son projet bénévolat bilingue. Son but, faciliter la gestion autonome des ressources bénévoles dans la grande région de Calgary. En 2013, l'ACFA régionale constate à quel point les ressources bilingues sont à la fois nécessaires et rares. À l'époque, on s'est aperçu qu'il y avait un manque criant de bénévoles pouvant s'exprimer en français, et cela concernait même des activités organisées par le milieu communautaire francophone. En Alberta, 2664,785 personnes parlent les deux langues officielles. La nécessité de créer une entité pouvant être capable de gérer et coordonner des ressources francophones est donc apparue comme une évidence. Les nouveaux arrivants francophones passent souvent par le bénévolat pour s'intégrer. Les questions de rétention, d'inclusion et de pleine participation des immigrants sont des points majeurs en ce qui a trait au dossier de l'immigration. La prochaine étape sera le lancement d'un portail virtuel qui permettra aux personnes de proposer leurs services. En attendant la date officielle du lancement, il est toujours possible de suivre son avancement sur la page Facebook ou sur le site Internet de l'ACFA régionale de Calgary. Si vous souhaitez réentendre cette émission, vous pouvez le faire sur la page de l'émission Le National sur le site web de Canalem au canalem.vusezvoix.com. Je vous invite aussi à aller visiter la page Facebook de Canalem, question de vous joindre à ceux qui aiment notre page, à nos abonnés. Sur ce, ça nous mène à la fin de cet épisode du National. C'était Christiane Campagna avec vous. Je remercie Mathieu Tessier à la mise en onde et puis je vous dis à la semaine prochaine.